Merci Marie, à vendredi prochain. Quatre invités, autant de secrets déchiffrés. La traductrice Danielle Robert redonne à l'enfer de Dante son rythme premier. Le dessinateur Sergio Aquindo et l'écrivain Pierre Sange joignent leurs efforts pour une tentative d'épuisement d'un tableau de Bruegel. Et l'éditrice Frédéric Breuil cherche et trouve l'alchimie entre texte et image.
Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Frédéric Breuil, Pierre Sange, Sergio Aquindo, Danielle Robert, bonjour, bienvenue bonjour, à tous les quatre. Frédéric Breuil, vous avez créé il y a 5 ans maintenant les éditions des Inaperçus, maison qui met à son programme la rencontre d'une écriture poétique et d'une création plastique, quelque chose qui serait de l'ordre de l'alchimie plutôt que du rapport d'illustration, petit format, quadrichromie et un rythme qu'on pourrait dire patient, puisque votre catalogue compte à ce jour une petite dizaine de parutions. Un rapport texte-image qui pourrait bien se loger dans votre projet, Sergio Aquindo et Pierre Sange. L'un est auteur et dessinateur argentin, a collaboré notamment pour Le Monde, le magazine littéraire ou la revue 21. L'autre est écrivain, a publié notamment A Cap, Séquel, un haut fragment de Lichtenberg aux éditions Verticales. À vous deux qui partagez le goût de la variation et du fragment, vous entreprenez une sorte de tentative d'épuisement à quatre mains d'un tout petit et très mystérieux tableau de Bruegel l'Ancien, Les Mendiants, et les variations et hypothèses plus ou moins échevelées autour de ces 5 personnages estropiés dialoguent dans Cendres des Hommes et des Bulletins que vous co-signez aux éditions Le Tripode. C'est peut-être bien le mouvement inverse de celui de l'épuisement auquel vous vous livrez, Danielle Robert, traductrice, qui après Ovid, Catulle et Cavalcanti avaient entrepris une nouvelle traduction de la Divine Comédie de Dante. Première étape, avant de poursuivre vers la vertu, l'enfer et ses 34 chants qui paraissent aux éditions Actes Sud, accompagnés d'une préface et d'un épais appareillage de notes.
Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tante è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'i vi intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al pie d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pietà. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva.
Étant à mi-chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, la route droite ayant été gauchie. Ah, combien en parlaient choses dures de cette forêt rude et âpre et drue qui à nouveau un effroi me procure, si aigre que la mort l'est à peine plus. Mais pour traiter du bien que j'y trouvais, je parlerai des choses que j'ai vues. Ne sais pas bien dire comme y entrer, étant alors si plein de somnolence que de la route vraie, je m'écartais. Mais, arrivé au pied d'une éminence, où cette vallée avait abouti, qui avait effrayé mon cœur d'abondance, levant les yeux, ses épaules je vis, déjà vêtues des raies de la planète qui conduit droit par tout chemin autrui. La peur alors me devint plus quiète, qui dans le lac du cœur m'était restée, la nuit que j'avais passée si inquiète. Et comme lorsque le souffle coupé, au sortir de la mer et vers l'estran, on se tourne et on scrute l'eau du danger, ainsi mon âme, encore en s'enfuyant, se retourna pour contempler le pas qui ne laissa jamais de survivant.
Merci. Avant d'en entendre la traduction, c'est-à-dire la vôtre, Daniel Robert, c'était la voix de Vittorio Gassman qu'on entendait, qui a enregistré il y a une vingtaine d'années à peu près l'intégralité de la Divine Comédie. Et là, c'était les 27 premiers vers du premier chant de l'Enfer de Dante. Enfer que vous avez donc entrepris de traduire, de retraduire, Daniel Robert, en attendant le Purgatoire et le Paradis. Oui. Je me demandais d'ailleurs, traduire et retraduire, c'est la même chose ?
C'est le même geste, bien sûr.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc dans les neuf cercles de l'enfer, un mot, Daniel Robert, sur cette voix, donc justement celle de Vittorio Gassman, que vous avez vous-même demandé à attendre. Mmh. Et c'est une des voix qui vous a accompagné à la table de travail pour traduire ce poème, ce texte dantesque, quand on sait l'importance de l'oralité pour ce texte, pour Dante, et a fortiori pour vous, hein, qui l'avez traduit. Qu'est-ce que cette voix-là, celle de Gassman, vous a donné à comprendre? Qu'est-ce qu'il vous a soufflé? Qu'est-ce que sa cadence, qu'est-ce que sa voix vous a soufflé dans l'exercice de la traduction?
Il donne, à mon avis, la voix de Dante. Et il la porte là depuis 700 ans. Cette voix a subi de nombreuses traductions. Et lui, il l'a fait vivre. Il l'a fait vivre telle que les Italiens la connaissent et l'aiment. Et les Italiens connaissent tous des pans entiers de la comédie.
Vous, quelle relation est-ce que vous entreteniez avec ce texte colossal avant de vous lancer dans sa traduction? Est-ce que vous vous souvenez de vos premières lectures? Est-ce que c'était en italien? Est-ce que c'était en français?
Oui, je me souviens de mes premières lectures, mais je n'avais jamais pensé que je le traduirais un jour. L'idée m'est venue à la suite d'une autre traduction, qui est celle de Guido Cavalcanti, qui était l'ami de Dante, le Primo Amico, qui l'a introduit dans le groupe des fidèles d'amour et qui l'a initié donc à ce groupe de poètes d'avant-garde du 200. Et les poèmes de Cavalcanti, qui ne sont pas très connus en français, sont d'une intense beauté. Et j'ai été tellement séduite et éblouie par cette poésie et également par le fait que dans les rimes de Cavalcanti, il y a des réponses de Dante et un échange de poèmes de l'un à l'autre. Donc j'ai été amenée à traduire quelques-uns des sonnets que Dante lui-même écrivait à Cavalcanti. Et ensuite je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de voir si c'est possible de s'atteler à la comédia. Mais c'est encore autre chose.
Ça a l'air si simple, comme vous le dites. Voilà. Oui. Serge Joaquindo, Pierre Sange, est-ce que l'un ou l'autre, est-ce que vous avez un rapport particulier à ce texte-là ou est-ce qu'il ne fait pas partie de vos lectures de chevet?
Pas vraiment, non. Pierre Sange. J'ai lu les trois étapes de la comédie il y a quelque temps, dans une autre traduction.
Oui. Désolé. Celle de Jacqueline Risset,
j'ai oui, bien oui, bien oui. Sûr. Et justement, d'ailleurs, je me posais la même question que votre première question qui vous a interloqué. Et c'est-à-dire que c'est peut-être une question de non-traducteur. Comment on traduit quand quelque chose a été déjà traduit? Par exemple, comment retraduire aujourd'hui Shakespeare après toutes ces traductions? On imagine qu'il y a un poids, qu'il y a des comparaisons, qu'il y a des choix. Et puis finalement, vous avez l'air de prendre ça très à la légère et puis de prendre ça comme une première traduction. Et c'est assez beau finalement.
Peut-être pas à la légère, mais je pense que...
Non, mais à la légère, ce poids qu'on imagine, non, vous partez à zéro.
Une œuvre de la dimension de celle de Dante, qui est telle, comme Shakespeare d'ailleurs, est telle qu'elle s'offre à toutes les interprétations possibles, comme un grand texte de théâtre. On ne demande pas à un acteur, comment se fait-il que vous rejouez le rôle qui a déjà été interprété, ou à un musicien, pourquoi est-ce que vous rejouez du Chopin, alors que... Bon, c'est la même chose. Une traduction, même s'il y en a eu beaucoup avant, c'est toujours nouveau, c'est toujours la première fois. comment on peut dire.
Alors la vôtre en particulier, Daniel Robert, hein, puisque aucune de ses traductions en français, en tout cas, n'aura respecté jusqu'ici la structure, la rythmique du poème, hein, celle qui, dites-vous, est le germe véritablement du poème, puisque je rappelle que le poème de Dante, hein, sont des chants qui sont organisés en strophes de 3 vers, des vers de 11 syllabes, qui obéissent à un enchaînement, une sorte de tresse bien particulière, hein, celui de la rime terse, c'est-à-dire que la rime du vers qui se trouve au cœur de la strophe est reprise en attaque de la strophe suivante, ce qui crée un effet de vague ou de pulsation ou de tressage et qui va donner tout le moteur et la dynamique à l'ensemble du texte. Oui. En quoi est-ce que ce rythme-là serait véritablement, au fond, le poème, hein, Daniel Robert ?
Il répond à une pensée très profonde de Dante et une volonté absolue qui est de faire sentir au lecteur du début jusqu'à la fin ce à quoi il croit profondément. Et ce à quoi il croit profondément, c'est à la Trinité. Donc, il fonde toute son œuvre sur les chiffres 1 et 3 et leurs multiples. Donc, il y a 3 parties, il y a 33 chants dans chacune des parties, ce qui fait 99.
34 dans l'enfer.
Plus une au début de l'enfer qui est un prologue, et ça lui permet de faire 100, qui est la somme des 9 premiers nombres premiers. Donc, tout est fondé là-dessus. Et sa strophe qui
est... Un poème qui se compte, donc.
Oui, c'est la strophe, la terzina, est composée de 3 vers, donc, qui ont 11 syllabes, 3 fois 11, 33. Et à l'intérieur de cette terzine, il y a cette fameuse tierce rime qui est un entrelac de rimes qui évite la monotonie du répétitif lorsque les rimes vont deux par deux et qui donne une pulsation extraordinaire. Il crée un rythme ternaire. Voilà. Et il est le premier à inventer ce rythme qui est comme une espèce de moteur qui nous conduit jusqu'au paradis, à la contemplation finale.
Alors vous êtes la première à la traduire, en tout cas ce rythme-là. Jusqu'ici, ça n'avait pas été fait en français. Hein. La traduction de Jacqueline Risset dont on parlait est une traduction en vers libre. Comment est-ce que vous comprenez justement cette résistance? On a parlé éventuellement d'une résistance de la langue française à proprement parler, à cette structure, ou une résistance de la tradition poétique française.
Voilà.
Ça vous semble justifié?
C'est très étrange parce que dans tous les autres pays, il y a eu des traductions qui ont tenu compte de la tierce rime. En anglais, en espagnol, en russe, en allemand,
en catalan.
Tous les traducteurs s'y sont affrontés et avec beaucoup de talent. En France, il y a une résistance qui vient du fait que les traducteurs pensent qu'on ne peut plus traduire en vers parce qu'on n'écrit plus en vers rimé. Rimé, j'ajoute, parce qu'en vers, on écrit encore en vers. Mais en vers rimé. Or, ce n'est pas, à mon avis, une raison, puisque Dante, lui, a écrit de cette façon. Donc, pourquoi est-ce qu'on va déplacer la structure qui, pour lui, et non seulement celle qu'il a choisie, mais qui en plus fonde tout le sens de son œuvre.
Alors pourquoi l'a-t-on déplacé justement? C'est la question que je vous posais.
C'est rétrograde d'écrire en vers rimé. Ça ne se fait plus. On dit ensuite que le français est une langue moins musicale que l'italien. Donc l'italien étant tellement musical, on ne peut pas atteindre sa musicalité, donc il vaut mieux évacuer la chose. Donc moi je trouve que c'est aussi un argument complètement spécieux, parce que dire de Baudelaire, de Rimbaud, de Racine, ils ne sont pas musicaux. On ne peut pas tenir ce discours-là.
On va évidemment pas revenir sur tous les personnages qui peuplent cette descente en enfer. Enfer d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi vous avez privé, vous titrez cet enfer, enfer, en le privant de son
déterminant. Oui, parce que le titre, c'est la Divine Comédie. Enfin, en fait, en italien, c'est la Commedia, parce que ce n'est pas Dante qui a donné le nom de Divine à son œuvre, c'est Boccace. Mais il a intitulé ces 3 parties, Inferno, Purgatorio et Paradiso. Donc, on a conservé le titre sans l'article.
Parmi ces personnages, donc c'est Virgile, hein, qui sert de guide à Dante dans la descente, dans la chute, hein, le long de cet entonnoir qui va de la ville de Jérusalem au centre de la terre, hein, le point le plus éloigné de Dieu, une descente en spirale, en cercle. Il y en a 9 et qui vont rétrécir au fur et à mesure que les péchés se font plus grave et les pêcheurs donc moins nombreux. Jusqu'à Lucifer, et parmi ces personnages, Ovide, il est présent, il est là, il est cité par Dante, il est très présent.
Il est constamment,
et il y a même des joutes avec
constamment que Virgile.
Ovide que vous avez traduit, je pense aux Métamorphoses, je pense aux écrits érotiques notamment. Est-ce qu'il fallait avoir traduit Ovide, avoir traduit Catulle et les autres pour s'attaquer à Dante? Est-ce qu'il y a un moment dans la vie d'un traducteur pour pouvoir s'attaquer à La Divine Comédie de Dante?
Il y a des traducteurs qui ont fait de très belles traductions et qui n'avaient pas traduit Ovide, ni Catulle, ni les autres latins. Je peux pas dire que c'est une condition sine qua non, mais ça m'a beaucoup aidé. Le fait de connaître très bien l'œuvre d'Ovide, notamment, ça m'a aidé parce qu'il y a énormément de références implicites, d'allusions qui n'apparaissent que lorsqu'on connaît les auteurs dont il parle.
La première strophe qu'on a entendue dite par Vittorio Gassman, si vous voulez bien la reprendre avec nous, nous dire justement quelles sont les questions qui ont pu être posées pour cette première strophe et les solutions que vous y avez trouvées.
Oui. Dans la première strophe, « Nel mezzo del cammin di nostra vita », la rime qui intervient au troisième vers, c'est « smarita ». Lorsqu'on commence à traduire cette strophe, étant à mi-chemin de notre vie, même si on dit autre chose, au milieu du chemin de notre vie ou à mi-chemin, de toute façon, notre vie ne peut intervenir qu'à la fin du vers. Donc il me fallait une rime en « i » pour le troisième vers. Et « smarita » veut dire « perdu ». Aucun mot en « i ». Donc il a fallu que
J'ai traduit d'ailleurs en général par « perdu » ou « égaré ».
Voilà. Comme je devais trouver cette rime en « i », j'ai cherché ce qui, dans le terme « smarita », pouvait avoir comme autre sens, puisque la grande idée de Dante, c'est que un texte ou un mot n'a pas qu'un seul sens, littéral, mais il en a quatre. Et notamment un deuxième qui est très important, qui est un sens métaphorique ou allégorique. Et ensuite, il y a un sens moral et ensuite un sens anagogique. Donc, il dit constamment, lecteur, sache que mes vers ne sont pas à être pris comme ça au pied de la lettre. Il faut que tu ailles plus loin. Donc, je me suis dit, dans cette idée d'une voie droite qui a été smarita, je me suis dit, perdue comment? Elle est tortueuse. C'est aussi l'idée qu'il était dans le péché et qu'il a cherché à en sortir, à retrouver la voie droite. Donc, gauchi m'a paru bien traduire le mot smarita, même si le dictionnaire ne dit pas que smarita veut dire gauchi.
Ce qui veut dire que, paradoxalement, ces contraintes-là, fortes, ont libéré, enfin en tout cas, vous ont permis une plus grande inventivité, au
Absolument.
Fond, exactement comme Dante lui-même.
Je suis enchantée de votre remarque, vraiment. Parce qu'on me dit toujours, mais c'est une contrainte terrible, c'est un carcan, vous avez dû souffrir. Non, c'est pas du tout ça. C'est une contrainte, c'est vrai, qui apporte une possibilité de créativité extraordinaire et qui libère.
Vous revenez sans cesse, notamment dans la longue préface, Daniel Robert, sur la musicalité de la langue, de la structure, sur le rythme, sur ses pulsations et sur le fait que ce soit un poème à voix, un poème à haute voix. Vous titrez même votre préface « L'entrelacs musaïque ». Dans la préface, vous faites même un lien entre Dante et le reggae, en tout cas entre la Divine Comédie et le reggae. Je raccourcis un petit peu.
Oui, et même avec la musique des pygmées Aka aussi, et la matrice mélodico-rythmique qui, chez les pygmées Aka, est une sorte de petite cellule à une voix qui ensuite est rejointe par une autre voix, puis une autre encore, et donne lieu ensuite à la polyphonie. Et c'est un mouvement comme ça, tournant, qui m'a rappelé, lorsque j'ai écouté cette musique, qui m'a rappelé le geste de Dante, qui est aussi d'entraîner le lecteur, petit à petit, par ce rythme ternaire et ce jeu de rimes.
Alors, c'est aussi un rythme que vous avez choisi de nous faire entendre aujourd'hui. Et ce rythme, c'est celui-là.
Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Che la diritta via era smarrita. Thank you.
Amy and Joseph, un titre de John McLaughlin, on a entendu, qui était précédé par une lecture des tout premiers vers du premier chant de l'Enfer. Donc je ne vous demande même pas pourquoi vous avez choisi de le faire entendre.
Oui.
Un petit peu quand même.
À cause de ce début. En fait, je pensais que je lirais le français à la suite de ces trois vers et sur la musique. Mais rien n'est...
À la suite de Gassman, c'est bien aussi.
C'est très très bien.
Pierre Sange, vous vouliez intervenir, je crois.
Oui, une petite question. J'imagine que Purgatoire et Paradis sont en chantier, sinon déjà achevés. Et on parle souvent de différences de registres entre Enfer et le reste, avec un registre parfois très trivial et beaucoup plus choisi, beaucoup plus peigné pour le reste. Vous avez aussi joué là-dessus? Ça vous aussi ouvert des portes ou posé des problèmes?
Oui, à la fois. C'est très différent. Il y a dans l'Enfer, plus on avance dans les cercles et au fond de l'Enfer, et plus les fautes sont graves pour Dante, et moins il a de compassion pour les pécheurs. Donc il devient virulent, dur, et il ne compatit plus du tout. Il leur dit qu'ils ont bien mérité. Et il emploie un vocabulaire, très souvent, très, très...
Eschatologique.
Presque
très cru.
Merde.
Oui.
Mais aussi presque argotique. Hein. Il emploie des mots qu'il tire du provençal ou du sicilien ou du toscan, du parler local, avec le sens qu'ils avaient pour la population, pour que la population italienne puisse comprendre le texte. Puisqu'il n'écrivait pas pour une élite. Il écrivait pour l'ensemble des Italiens. Non pas pour être lu, parce que les Italiens, à 90%, étaient illettrés à l'époque, mais pour qu'on récite les poèmes et que les gens puissent les mémoriser grâce à la rime et puissent ensuite les redire. Et c'est ce qui s'est passé depuis 700 ans. Hein. Les Italiens baignent dans cette culture, mais vraiment viscéralement.
Daniel Robert, vous avez ceci de particulier, c'est que vous avez traduit Dante, ça on l'a bien compris, mais donc aussi Catulle, mais aussi Ovide, toujours chez Actes Sud, mais aussi l'œuvre poétique de Paul Auster, mais aussi, et c'est ce qui est intéressant, la biographie de référence de Billie Holiday, à qui vous avez même consacré un ouvrage en tant qu'auteur. Vous êtes par ailleurs pianiste. Ce lien-là à la musique, est-ce qu'il fait de vous une autre traductrice ?
Chaque traducteur ou traductrice est unique.
Qu'est-ce que ça vous donne, justement, cette
écoute beaucoup. Le latin, certainement, et Ovide m'apporte beaucoup pour cette traduction, et la musique, bien évidemment.
Thank you.
rythme ternaire, là. C'est au jazz que je l'emprunte. Je pense que... Il y a des passages où Dante swing, vraiment. Vraiment. Il entraîne le lecteur dans une espèce de danse. C'est pourquoi Vittorio Gassman disait que c'était un rythme de valse. Lui, il voyait un rythme de valse à trois temps. Et parce qu'il y a ce mouvement incessant auquel on ne peut pas résister.
Gassman parlait aussi de fantastiques formes sculpturales à propos de la Divine Comédie, un texte qui multiplie évidemment les images, les métaphores, les allégories. Un texte qui a été traduit beaucoup, mais aussi surillustré, hein, Gustave Doré, William Blake, bien sûr, et puis plus près de nous, des gens comme Garoust, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont compté particulièrement pour vous ?
Non. C'est plutôt la musique. C'est plutôt la musique que je me suis.
J'imagine que vous voyez où je veux en venir. Je tentais une transition qui n'arrive pas, néanmoins.
Sergio Aquino peut parler de Gustave Doré pendant des heures.
Alors merci. Sergio Aquino, justement, est-ce qu'il y a des illustrations de Dante ?
Oui, justement, vous m'avez demandé sur Dante et j'ai pas osé dire que je connaissais que les livres illustrés sur la Divine Comédie. Donc,
mais c'est le cas de beaucoup de gens.
Oui. Donc, mais notamment, il y a eu une édition, enfin plusieurs éditions avec trois dessinateurs différents. Il me semble qu'il y avait Lorenzo Mattotti qui avait illustré, je me souviens plus si c'était la première partie, Milton Glaser qui avait illustré la deuxième dans une maison d'édition italienne qui s'appelle Nuage, qui est une galerie aussi. Et ça, c'était un peu, j'ai les trois livres, donc je les ai lus, mais en portant plus d'attention, évidemment, au dessin.
Il y a Jean-Paul Marqueschi aussi, qui travaille depuis 30 ans sur l'œuvre de Dante.
Frédéric Breuil, vous qui êtes également très concerné par la question du rapport texte-image.
Ouais, effectivement, les illustrations de Doré... sont très marquantes, en plus.
Moi, j'attendais justement que Sergio Aquino en parle pendant des heures, puisque c'est ce qui m'avait été annoncé par Pierre Sange, et puis rien.
Je pense peut-être aussi parce que c'est un peu, c'était un peu un des premiers à donner cette forme aussi réaliste, on pourrait dire. Moi, c'est pas mon illustrateur préféré, mais évidemment, qui pourrait dire du mal de Doré. Mais je pense que c'est ça, s'il y a une puissance. Doré était très inspiré par Rembrandt. Il s'inspirait directement pour ses gravures, pour ses dessins et tout ça. Donc, il y a aussi, on se prend la chose, on a l'impression d'y être.
Un bon siècle plus tard, donc, c'est là que vous vous situez, Sergio Aquino et Pierre Sange. Vous, Bruegel et vos cendres des hommes et des bulletins, parus aux éditions Le Tripode. Entre texte et image, avec texte et image, un dialogue autour et à partir d'un petit tableau attribué à Bruegel l'Ancien. Titre « Les mendiants » qui est daté de 1569. Qu'on peut voir, pour être précis, au musée du Louvre, dans l'aile Richelieu, dans les salles de l'école du Nord. Un tableau qui est resté assez mystérieux. Hein. Ce sont cinq personnages au premier plan, cinq estropiés avec béquilles ou prothèses, des drôles de chapeaux, des queues de renard accrochées sur leurs vêtements. À l'arrière-plan, un personnage féminin, debout, de profil, qui semble porter une sorte d'écuelle dans la main. Et tout à l'arrière-plan, comme un décor de théâtre, une architecture de briques qui semble s'ouvrir vraiment tout au fond du tableau sur un paysage. C'est vous, Sergio Aquino, dessinateur, graveur, illustrateur, notamment pour la presse, mais auteur déjà d'ouvrages qui mettaient texte et image en tension. C'est vous donc qui vous arrêtez le premier sur ce petit tableau au Louvre. Qu'est-ce que vous y voyez d'abord ?
Alors, je pense, c'est comme on a souvent dit avec Pierre, mais c'était plutôt la chance. Je pense que c'est vraiment le hasard. Je me baladais au Louvre assez souvent, mais cette fois-là, en fait, spécifiquement, j'ai cherché un autre tableau et pour essayer d'échapper un peu au flux des touristes qu'il y a au Louvre assez souvent, je me suis réfugié dans cette petite salle. C'était une toute petite salle. Je ne sais pas si le tableau il est encore en fait au Louvre. Je pense qu'il est en réparation ou il est, mais en tout cas, il est plus visible. En tout cas, il était dans une toute petite salle, donc je me suis réfugié là et là, je découvre que c'était un tableau de Bruegel. Moi, je pense que ce qui m'a vraiment arrêté en premier, c'était quand même le fait que ça soit cinq mendiants. C'est quand même pas rien. C'est une des premières fois, en tout cas, dans la peinture de Bruegel, on voit souvent des mendiants, mais ils sont toujours un peu à l'arrière-plan où ils sont disséminés dans toutes ces scènes énormes qu'il avait l'habitude de peindre. Ils étaient un peu comme au deuxième plan, alors que là, c'est vraiment, ils sont les personnages centraux du tableau. Et puis c'est aussi la taille du tableau, c'est vraiment, ça doit faire quoi, 30 par 40, 20 et quelques centimètres par 30. Donc c'est un tout petit tableau, donc il y a vraiment quelque chose de très intime. c'est pas une grande allégorie, c'est pas ni la tour de Babel, ni le Christ portant la croix, ni la parabole des aveugles. C'est vraiment un tout petit tableau où il y a que cinq mendiants. On n'arrive pas à comprendre vraiment ce qu'ils font. Parfois, on a l'impression, quand on le regarde souvent, on a l'impression qu'ils crient. D'autres fois, on a l'impression qu'ils dansent ou qu'ils mendient. On ne sait pas très bien ce qu'ils font. Et ensuite, c'est l'ambiance, un peu les couleurs. On n'arrive pas à savoir si c'est la nuit ou le jour. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très flou, très, la peinture est très nette, mais je veux dire, moi, en tout cas, ça m'évoquait quelque chose de très flou où j'avais envie de pénétrer. J'avais envie de me glisser un peu dans le tableau.
Et vous, quand vous avez envie de vous glisser dans un tableau, vous commencez à le dessiner, à le copier, à l'épuiser. C'est en tout cas ce que vous avez commencé par faire. Qu'est-ce que vous cherchiez?
Je voyais pas trop d'autres moyens de me glisser dans le tableau que d'essayer de le dessiner un peu comme si on prenait le quadrillé et on commençait à dessiner partie par partie, même si j'ai commencé à les dessiner plutôt par des petits détails, tous les béquilles, les échasses, les chapeaux, les mains des personnages, les types de visages. Et je pense que c'était vraiment très, il y avait pas, c'était vraiment un sentiment plutôt d'essayer de capter quelque chose de cette ambiance de. Donc il y avait pas encore un rapport conceptuel au tableau, c'était vraiment une sensation de vouloir comprendre ce qui s'est passé dans ce tableau et pourquoi il m'est fasciné autant. Donc oui, il n'y a pas trop d'autres moyens que de dessiner, en tout cas pour moi.
Dessiner ou épuiser ce tableau, c'est un geste auquel vous vous êtes déjà livré, avec une photographie notamment, et aussi avec un boulevard parisien, avec une rue parisienne. Qu'est-ce que ce geste-là, de l'épuisement par le dessin, par le détail, par la variation, peut dire de votre pratique du dessin?
Il y a quelque chose un peu obsessionnel. Plein de gens, beaucoup de gens m'ont dit, mais il y a quelque chose de très obsessionnel dans ta manière de travailler, de s'attacher à une chose, et revenir. Je suis pas arrivé au bout de cette démarche. Je sais pas exactement ce que je vais faire. En fait, quand je commence comme ça, j'imagine que l'idée un peu, c'est pour ça que ça m'avait intéressé, la question sur les types des langages, en fait. Dans l'enfer des Dantes, parce que j'ai l'impression qu'une image, on pourrait la dépeindre, la recopier ou la réinterpréter dans plein de avec plein de matériaux, plein de techniques différentes, plein de manières de voir différentes. Parfois, un jour je dessine le tableau, je suis dans un esprit plutôt expressionniste, donc je vais aller vers ça. Un autre jour, on a envie d'être plus réaliste, donc on va essayer de s'attacher à quelque chose de plus. Donc j'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu une espèce d'archive de nos jours et de nos heures, de manière de travailler. C'est servir du tableau, de l'image, uniquement comme une espèce de miroir de nos états d'âme, jour par jour.
Alors, toutes ces variations, on les retrouve évidemment, une partie, parce que j'imagine qu'il y a de la chute, mais on les retrouve dans Cendre des Hommes et des Bulletins. Pierre Sange, l'épuisement ou la variation, c'est un geste qui vous est familier aussi. J'imagine que ce n'est pas par hasard tout ça. Je ne parle pas de l'épuisement graphique, mais de la variation. C'est un geste qui vous arrive de faire vôtre. Vous avez prolongé notamment la vie de d'Akam, le capitaine de Moby Dick, dans un roman. Vous avez achevé des écrits de Kafka. Vous avez réécrit Macbeth, à peu près. Pastiché Arnaud Schmitt. Qu'est-ce que vous trouvez dans dans ce geste-là, non pas tellement celui de l'épuisement que celui de la variation et éventuellement celui de l'histoire manquante?
Alors, c'est étonnant parce que Sergio avait fait appel à moi pour ce livre, notamment à cause d'un petit texte qui s'appelait Études de silhouette, qui est des variations et des prolongations de phrase que Kafka avait laissée en suspens, et j'avais appelé ça étude de silhouette parce que on a tous une admiration pour ce genre de dessins qui sont des esquisses, des travaux préparatoires et qui ont une beauté particulière. Alors souvent ce sont des travaux sur la variation, sur la reprise, sur des micro-variations à partir d'un objet peut-être trivial, un nez, une oreille, un pied, etc. Et la beauté vient de ce travail sur des petites choses. Et je voudrais parfois être un dessinateur, mais à l'échelle de l'écriture, pour pouvoir appliquer le même travail sur des petites choses, des petites variations, des petites reprises. Et j'imagine parfois, alors c'est peut-être un lien qui est un peu osé, mais quand Sergio parle de sa façon d'entrer dans le tableau de Bruegel en recopiant certains petits détails, je me dis que c'est une façon d'entrer vraiment à l'intérieur d'un travail, comme peut-être un traducteur, mais là, je, peut-être que je dis n'importe quoi, rentre à l'intérieur de la langue de Dante, par exemple, pour essayer de retrouver des clés, de retrouver des petites articulations. Et parfois, en entendant un traducteur, on a des leçons d'écriture formidables, parce que on parle vraiment de technique, on parle vraiment de la matière, sans que ce soit de façon abstraite ou pesante. On est vraiment dans quelque chose de très concret. Alors ça s'éloigne un petit peu de votre question, mais voilà, les impressions que j'ai par rapport à cette question-là de la variation ou de la reprise ou presque aussi du parasitage d'œuvres qui existent déjà.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Partant de ce tableau, Pierre Sange, vous imaginez cinq personnages qui auraient dû éventuellement avoir un destin. Il y a par exemple un pape usurpé qui se proclame antipape, une héritière de la couronne anglaise privée de son trône, même un sultan sans turban ou presque, enfin un pape, une princesse, un roi, un sultan, un banquier, tous ces personnages qui vont se trouver réunis dans une sorte de caravane d'usurpés, caravane un peu lamentable et assez drôle, il faut bien le dire aussi, qui va traverser l'Europe. Quel est le personnage qui s'est imposé d'entrée, d'emblée, après avoir vu justement ce petit tableau d'Origel?
Je pense que le premier, c'est ce pape qui est presque reconnaissable sur cette toile. Hein. Alors, on en a déjà un peu parlé. Cette toile est très, très mystérieuse. Elle a assez d'éléments pour susciter de la curiosité et assez de vide et d'espace et de non-dit pour permettre aussi aux interprètes d'y entrer et de faire un petit peu leur propre cuisine. Et l'un de ces personnages semble être coiffé d'une sorte de mitre. Alors voilà, on tire cette ficelle-là et on dit que effectivement c'est peut-être un évêque, un archevêque ou un pape. Et comme j'ai toujours été fasciné par ces histoires d'antipapes qui ont eu lieu, souvent des papes élus ne sont déconsidérés, et donc certaines factions de cardinaux étrangères, pour des raisons X ou Y, élisent leur propre pape. Et puis on a eu comme ça pendant des années un pape ou deux antipapes cohabiter et se proclamer, enfin attirer la légitimité ou proclamer une légitimité qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre. Et c'est ce personnage-là, cette idée de l'inversion, ou cette idée du perdant, du grand perdant de l'histoire, je trouvais intéressant de suivre. Romanesquement, c'est vraiment du pain béni. C'est quelque chose d'assez intrigant, intéressant. Les grands perdants ont toujours un petit côté comique et triste qui attire, j'espère, le lecteur. Et puis voilà, j'ai prolongé ce principe-là en faisant se rencontrer d'autres grands perdants de l'histoire. Un roi de France à la place du roi de France, une reine d'Angleterre à la place du roi d'Angleterre, comme si une énorme caravane de grands recalés de l'histoire se rassemblait pour revendiquer une couronne qu'ils n'ont pas, et peut-être revendiquer, essayer de construire une politique qui n'a pas lieu dans les marges de l'histoire ou dans l'enfer de l'histoire.
Parler de ce qui n'a pas lieu, de ce qui n'a pas eu lieu ou de ce qui aurait pu advenir, comme vous le faites assez souvent, hein, ça n'est pas la première fois. Qu'est-ce que ça vous permet? Est-ce que c'est une façon de mettre en doute aussi ce qui est finalement advenu?
Oui, sans doute, il y a un jeu sur le renversement, qui est un jeu carnavalesque. Hein. On prend une réalité, on la renverse, on prend un lieu commun et on le renverse. Il est plus intéressant une fois renversé. On prend des rois et on les renverse, et on a droit à des pièces de théâtre ou à des romans comiques. Il y a aussi l'idée que, d'une certaine façon, la nature a horreur du vide, et la nature narrative a horreur du vide. Et dès qu'il y a une lacune quelque part, un blanc sur la carte, une lacune dans une frise historique, dans une chronologie ou une petite énigme dans la biographie de quelqu'un, 20 ou 30 ans disparu, il y a toujours, tôt ou tard, un écrit ou plusieurs écrits qui se font à ce sujet, toujours. Parce qu'encore une fois, c'est comme ce tableau qui propose à la fois des personnages et des non-dits, des vides. On a envie d'y pénétrer et on a envie de remplacer ces objets. Le Christ dans la Bible disparaît quelques jours. Et bien voilà, il y a un évangile, l'évangile de Nicodème, qui va raconter l'histoire de ces trois jours disparus. C'est voilà, on remplit les trous, et ce sont des grands moteurs de fiction depuis toujours, je pense.
Tiens, Joaquindo, la façon dont Pierre Sange a rempli les trous, en tout cas pour ce qui est de ce petit tableau de Bruegel, Est-ce que ça a modifié vos propres variations? Parce que, alors, je ne sais pas exactement comment vous avez travaillé, mais c'est quand même vous le point de départ. Vous aviez dû commencer déjà à dessiner, puis à proposer à Pierre Sange rentrer dans la danse et d'écrire à son tour. Donc j'imagine que vous avez travaillé chacun de votre côté.
Oui, on s'était concerté au début, en fait, quand j'avais invité Pierre à travailler sur le tableau, sur une ou deux idées qui étaient les variations, les versions de la toile. Donc, différentes possibilités d'interprétation sur le tableau de Bruegel. L'écho de la fête des fous, il me semble, sur l'idée du carnaval et de la fête des fous.
Alors, parce qu'il faut rappeler que donc, le texte est aussi rythmé par, à la fois par des hypothèses éventuelles de déchiffrement ou des clés de lecture de ce petit tableau, et également par des moments de la fête des fous.
Il y a l'histoire qu'on vient d'évoquer de cet antipape qui serait l'une des versions de la toile, mais développée sur tout le livre. À l'intérieur, comme dans un sandwich, il y a d'autres variations possibles, d'autres interprétations possibles de cette toile. Et à un troisième niveau de lecture, si on veut, il y a des variations sur ce qu'on appelle la fête des fous, ou le carnaval, c'est-à-dire ces journées qui correspond en général aux périodes de carnavalesque, ces journées de renversement possibles et de où toute la structure sociale et hiérarchie sociale ou politique ou religieuse était renversée pendant un moment jusqu'à une certaine date où l'ordre reprenait le dessus. Alors ces renversements donnaient lieu à des fêtes ou à des cérémonies, des contre-cérémonies, des parodies de cérémonies. On pouvait élire pape ou archevêque un idiot ou un animal ou un enfant. Ou alors chaque cérémonie était prise au pied de la lettre, enfin, chaque élément de la cérémonie était pris au pied de la lettre, mais de façon vulgaire, de façon renversée, un petit peu comme maintenant on ferait une parodie d'une grande œuvre littéraire ou d'un grand film. Voilà. C'est aussi une façon de marquer son respect, parce qu'après ce moment de renversement et de déchaînement et d'autorisation à tous les excès, l'ordre est rétabli.
Dans ce récit, Pierre Sange, est-ce que vous voulez bien nous faire lecture ?
Avec plaisir. Alors justement, c'est sous le titre « Écho de la fête des fous », une variation sur ces fêtes des fous. À Dardeuil, un baron prêtait son perroquet, hérité d'un oncle. Ficelé tout en haut du bois de la chaire, il avait le droit, pendant les 24 heures de la fête des fous, le droit de redire en boucle les 70 jurons aigres appris au cours de longues années d'apprentissage. Ça n'a jamais fait tomber les murs de l'église, mais les paroissiens tout en bas, si bon public, applaudissaient à chacun des 70, à chaque retour, la première fois, la centième fois, sans se lasser, jusqu'au soir, comme si la redite enchantait particulièrement, et comme si Mordieu, Tudieu, Jarnidieu et Nom de Dieu composaient un sermon idéal, la seule chose à dire à des mortels venus se serrer dans la maison de l'Éternel.
Merci. Ouais. Vous écrivez d'ailleurs en préambule « Le jour des fous, quand l'esclave devient roi et le roi cordonnier, l'homme situé à mi-distance entre la vérité et le mensonge n'a pas besoin de changer de place ».
Voilà, c'est ça. J'imagine que ces personnages-là, qu'on a évoqués tout à l'heure, sont d'une certaine façon entre les deux. On ne sait pas s'ils sont d'immenses figures royales ou impériales effectivement usurpées, ou alors des usurpateurs à leur tour, et des mendiants et des escrocs. Ça, c'est toujours aussi des personnages plus intéressants quand ils sont dans cet entre-deux-là.
Serge Aquino.
Là, justement, il y avait un des nœuds dans notre travail, parce que Pierre, donc, il décide de s'axer sur cette histoire de l'antipape, alors que quand il me rend les textes, ou quand il me propose une première version du texte, il y avait toute cette histoire de l'antipape qui n'était pas des tout prévue au début. Donc, ça m'a posé vraiment enfin, je me dis, bon, est-ce que j'illustre ces papes? Donc, il y avait le problème d'illustration aussi. Est-ce qu'on tombait dans quelque chose de plus courant d'illustration de texte, qu'on avait essayé de fuir dès le début? Et donc, j'ai plutôt pris le parti de rester quand même dans le tableau. C'est-à-dire d'essayer de d'éclater le tableau dans tous les sens, de les tirer dans plein de techniques différentes, c'est-à-dire de chercher des approches techniques pour pouvoir si j'arrivais à raconter un peu quelque chose sur ces tableaux et sur l'histoire que Pierre proposait, mais tout en restant toujours dans l'univers du tableau, des mendiants. Et donc toute la caravane dont Pierre parle est toujours représentée avec les personnages du tableau ou avec d'autres personnages des mendiants qui sont dans d'autres tableaux de Bruegel. Parfois aussi, les mendiants de Bruegel passent dans des tableaux de Vermeer ou de Rembrandt. Donc c'était l'idée un peu de faire...
Parfois vous videz la scène. Même.
Voilà, parfois videz la scène pour essayer de contempler simplement le décor. Mais donc moi j'avais plutôt envie de rester comme si c'était une espèce de grille de lecture, les mendiants. et avec ça, essayer de faire différentes versions.
Ce qui nous amène à la voix que vous avez voulu faire entendre, Sergio Aquindo. Alors cette voix, ce sera celle de Thierry Beauchamp, qui va nous faire lecture d'un texte de Michaud.
Plume et les cul-de-jattes. Il y avait un homme en face de Plume, et dès qu'il cessait de le regarder, le visage de cet homme se défaisait, se décomposait en grimaçant, et sa mâchoire tombait sans force. « Ah ah !» pensait Plume. « Ah ah ! Comme elle est encore tendre ici, la création. Mais quelle responsabilité pour chacun de nous. Il faudra que j'aille dans un pays où les visages soient plus définitivement fixés, où l'on puisse fixer et détacher ses regards sans catastrophe. Je me demande même comment les gens d'ici peuvent vivre. Sûrement j'y contracterai bientôt une maladie de cœur. » Et il se jeta dans une chaise à porteurs. Il arriva à une réunion de cul-de-jattes qui se tenait dans un arbre. Continuellement, il fallait aider de nouveaux cul-de-jattes à monter dans l'arbre, qui en était déjà tout noir. Ça leur fait tellement plaisir. Ils contemplent le ciel à travers les branches. Ils ne sentent plus le poids de la terre. C'est la grande réconciliation. Mais Plume, des cul-de-jattes plein les bras, se plaignait intérieurement. Non, il n'est pas travailleur. Il ne sent pas le besoin ardent du travail. Pour la tombe de votre père, achetez un petit chien. Ils insistent, lugubres, comme des infirmes. Fatigue. Fatigue. On ne nous lâchera donc jamais.
Plume et les cul-de-jattes, c'est extrait d'un certain Plume, d'Henri Michaud, que vous avez choisi, Sergio Aquindo. Pour quelle raison ?
Je suis tombé sur ces textes précis-là il y a très peu de temps. Et voilà, il m'a fasciné, tout autant que le tableau de Bruegel. Il me semblait vraiment presque une illustration de toute notre démarche avec Pierre. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Pierre Sange ?
Non, j'ai laissé Sergio choisir ce texte, mais je l'approuve complètement avec ses visages mobiles et ses cul-de-jattes et ses imprécisions des corps, voilà, qui va tout à fait avec ces mendiants de Bruegel et ceux de Sergio, qui sont aussi physiquement instables. Par exemple, on parlait du personnage à l'arrière qui est mystérieux, vous l'avez décrit comme une femme. Oui, sans doute, peut-être, mais c'est déjà une interprétation.
On ne sait pas. Ouais.
Ces cinq personnages, vous les prenez par leurs détails, en gros plan, des planches façon un peu imagée ou encyclopédie, avec donc effectivement toutes les prothèses, les accessoires, les queues de renard aussi, les vêtements et des figures découpées, travaillées en ombre, des morceaux d'architecture, des noirs profonds, des reproductions qui sont au bord de l'effacement, des scènes vidées juste de ces personnages, des portraits en variant les techniques. Au fond, quelle histoire raconte ces dessins ? Est-ce que ça pourrait aussi être perçu comme un commentaire sur ce qu'est le dessin ou une façon de documenter le dessin ?
J'espère. En tout cas, j'aimerais bien que ça soit... En tout cas, c'était un peu la démarche, mais c'était pas, je ne me l'étais pas dit comme ça, mais en tout cas, je pense qu'au bout de tout ce travail, il y avait quelque chose de cet ordre-là, d'essayer de voir à quel point les dessins ou le collage, en fait, plein de dessins que j'avais fait pour les livres n'ont pas trouvé place, et du coup, je les ai découpés. Et je les ai recomposés à nouveau
dans le dernier chapitre.
Dans le dernier chapitre, qui correspond un peu à une nouvelle interprétation que Pierre lance sur le tableau. Et donc je me disais, bon, mais finalement, ces mendiants, ces dessins, ils sont faits aussi des morceaux de dessin. Et cette idée du dessin comme une langue. Comme une langue qui nous permet de raconter mille fois la même histoire.
Au fond, qu'est-ce qui se trame entre le texte et l'image ?
Alors parfois des jeux de contradictions, Sergio s'amuse à détruire ce que je me suis efforcé de composer pendant 3 ou 4 pages, et notamment, j'étais très frappé, mais ça m'a fait quand même beaucoup rire, le personnage de Jacinta Ier, reine d'Angleterre à la place du faux roi, dont je fais un portrait quand même assez, finalement assez élogieux, quelqu'un d'assez raffiné, d'audacieux, de courageux. Et puis alors, j'invite les lecteurs à regarder la page 121, un portrait de ce personnage, on dirait vraiment... On est entre le mendiant au plus bas niveau de sa décrépitude et le champignon. Enfin, c'est quand même quelque chose, quelqu'un qui devient presque végétal. Enfin, c'est un renversement total de l'image que je me faisais de cette personne, mais en même temps, voilà, je n'ai pas le droit d'avoir un seul mon avis et de l'imposer ni à Sergio ni au lecteur. Donc ce contraste-là, voilà, ça fait partie des pièges.
En tout cas, c'était un peu l'idée dès le début aussi de que tous les deux on soit libre de tirer en fait l'interprétation et les images et les scènes du tableau, enfin tout ce que le tableau nous suscitait, en fait le tirer vraiment dans tous les sens, qu'on ne soit pas prisonnier ni l'illustrateur du texte ni les textes d'illustrateur.
L'idée c'est aussi que les choses ne s'emboîtent mal pour laisser encore de la place soit à d'autres interprétations ou pour avouer notre erreur ou notre échec, finalement à donner un terme définitif à cette toile.
Ce qui nous amène aisément, comme c'est pratique, à Frédéric Breuil et aux éditions Les Inaperçus, une maison créée en 2011 avec un programme très précis auquel vous vous tenez, la rencontre entre le texte et l'image, même si je crois que peut-être il va y avoir un petit peu d'autres choses qui vont arriver. Un auteur et un artiste, plasticien ou photographe contemporain, enfin autrement dit, vivant. Texte et image, rien de nouveau, vous allez me dire, dans le champ de l'édition. Qu'est-ce que vous vouliez renouveler?
Je trouvais que souvent c'était un petit peu justement une illustration a posteriori et que souvent c'était quand même la littérature qui avait le dessus, qui avait la part belle en tout cas. Et moi, ma formation, c'est les beaux-arts.
Grand sourire de Serge Joachim.
Ma formation, c'est les beaux-arts. Et pour moi, c'est... Enfin, si moi, je devais m'exprimer, ça serait plutôt par un biais plastique. Je voulais que les ouvrages soient faits à deux. À deux, et puis voire même à trois, parce que j'aime bien avoir mon mot à dire et construire. Enfin, faire vraiment partie de l'histoire. Enfin,
à propos de faire partie de l'histoire et de textes et d'images, toujours Frédéric Breuil, avant de travailler dans le monde de l'édition et du livre, donc il y a eu les Beaux-Arts, vous l'avez dit, et c'est vous qui signez le logo de la maison, Les Inaperçus, que je vais vous laisser décrire. Qu'est-ce qui pourrait bien dire du projet à proprement parler?
Je vais surprendre peut-être les gens en disant que ce petit signe, c'est moi. c'est une petite bonne femme, enfin bonne femme ou pas bonne femme, un petit être en tout cas, qui a une grosse tête et puis qui a plein d'idées qui en sortent, on va dire. Mais c'est une combinaison de symboles alchimiques en fait. C'est le pavot et c'est la planète Pluton.
Alors il y a eu Éric Pessan et Michael Lafontaine, Lucie Taïeb et Sidonie Mangin, Emmanuel Pagano et Claude Rouillet, Stéphane Bouquet et Amorida Kuna, Mathieu Riboulet et Frédéric Cochet, ça c'était assez récemment. Une particularité, ces rencontres, c'est vous qui en êtes à l'origine, comme vous l'avez dit. Vous aimez bien vous inviter dans le projet, donc c'est vous qui imaginez les binômes. Pour quelle raison? Pourquoi refuser, au fond, la rencontre volontaire comme celle de Pierre Sange et Sergio Aquino, par exemple?
Bien, j'aime bien que les choses se frottent un petit peu et que les univers se répondent.
Tu veux dire qu'il y a eu des mariages ratés?
Il y a eu, en effet, des mariages qui se sont interrompus très vite, dès le début. Parce que les gens n'étaient pas capables de rentrer dans l'univers de l'autre, justement. Voulaient rester avec leur propre création, univers, et s'en donner à l'autre, sans s'adapter à l'autre. Et ce n'était pas le projet, du coup.
Vous vous en tenez au contemporain, mais alors du coup, justement, si modèle il y avait, parce que j'ai bien compris que ça devait répondre à un manque du moment, mais est-ce qu'il y aurait, au fond, est-ce qu'il y aurait eu déjà un binôme idéal dans l'histoire de la littérature et de l'image? C'est-à-dire quelque chose qui aurait pu faire modèle?
Moi, j'ai une passion pour Edgar Poe, par exemple.
C'est une des choses qui est fascinante avec Henri Michaud, par exemple, la différence qu'il y a entre ses textes et ses dessins. Il y a une écriture qui est vraiment très très différente. Victor Hugo, par exemple, dans ses dessins, bon, là, il y a peut-être plus de points de rencontre entre ses dessins et ses textes. Dans le cas de Michaud, en tout cas, c'est... Bruno Schultz, par exemple. Bruno Schultz qui a écrit et qui a dessiné. Et on trouve un peu ces côtés un peu baroques dans ses dessins et dans ses textes. Mais quand même, il y a une grosse marge entre les deux.
Ouais. Chez vous aussi, Sergio Aquino, vous qui faites les deux, qui par ailleurs êtes aussi auteur et aussi dessin, on ne retrouve pas vos dessins dans votre écriture et vice-versa?
Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu une grande frange, oui. Ça me semble vraiment, c'est un peu dommage, ça me semblerait dommage de vouloir faire la même chose, mais en tout cas, avec les dessins, je ne peux pas exprimer les mêmes choses que dans les textes. Ouais.
Daniel Robert, Frédéric Breuil, Pierre Sange, Serge Joaquindo, c'est la fin de cette émission presque, puisque je vous laisse la conclure entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à tous.
Moi, j'ai une question.
Pierre, je peux poser ma question, Serge. Vous connaissez ce texte de Galilée qui mesure l'enfer de Dante, l'enfer d'après la description de Dante.
Oui, voilà.
C'est incroyable.
Sûr, oui. Voilà.
C'est un cône, enfin, il fait tout un calcul.
Oui,
puis
oui.
Il en déduit la mesure de Lucifer.
Oui, il y a eu énormément de recherches de ce type à l'époque de Dante et après mathématiques comme ça, calculer aussi la position des astres et des planètes telles que Dante les montre, voir si c'était juste, donc à quel moment se situe, puisque les Gémeaux sont, d'après ce qu'il dit, à tel endroit. Il y a des positions très contradictoires.
Ah d'accord, oui. Il y a des erreurs. Enfin, oui, parce que je ne cherchais pas. Oui, ça, c'est la question de la retraduction.
Mais apparemment, oui, ça ne pose pas de problème. C'est même une nécessité, la retraduction.
Oui,
c'est ça. Moi, on m'a posé la question, est-ce que vous pensez que dans 50 ans, votre traduction sera toujours... Je dis non, certainement, il y en aura eu d'autres. Et tant mieux. Tant mieux, certainement. On aura vieilli dans 50 ans.
Concrètement, est-ce que vous avez relu Risset et d'autres?
Ah oui. Oui. De toute façon, je travaille, j'ai plusieurs traductions à côté de moi. Donc, je travaille et puis après, je regarde ce qui a été fait par ailleurs. Mm-hmm. Et puis, et surtout, j'essaie de ne pas faire la même. Et quand par hasard, je tombe sur un même vers, ça m'ennuie. Parce que sinon, on est vite accusé de plagiat. Mais quelquefois, il y a des vers qui
s'imposent et qui, on ne peut rien faire d'autre.
Oui.
Oui, ça vous arrivait de trouver un vers qui est
du
premier au dernier
chant
mot, le
5,
même.
Le vers à la fin du chant 5, lorsque Paolo et Francesca la rencontrent, et Francesca a raconté leur histoire tragique, Dante écrit « E cadi come corpo morto cade ». Alors, c'est ou bien « Et je tombais comme un corps mort tombe », ce qui est très laid, ou bien « Et je tombais comme tombe un corps mort », ou bien « Et comme tombe un corps mort, je tombais ». Et on ne peut pas, il n'y a pas 36.
Oui,
moi.
Oui.
Et moi, j'ai choisi cette dernière. Mais je ne suis pas la seule. Parce que ça sonnait mieux rythmiquement. Mais bon, là, il y a des cas où on ne peut pas faire autrement.
On a un personnage en commun, presque. Il y a Célestin V. On évoque Célestin V.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Dans l'enfer.
Oui, oui.
Le grand refus.
L'homme du grand refus, oui. Qui en fait avait été dégommé par Bartholomée VIII, qui l'a forcé à démissionner, qui ensuite a dit qu'il n'avait pas accompli son devoir.
Et voilà, encore un usurpé.
Ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation et la lecture, et à Nicolas Slimani pour la technique, à François Connac pour la réalisation. Merci à Daniel Robert, Pierre Sange, Sergio Aquindo et Frédéric Breuil. Vous trouverez toutes leurs actualités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de l'alchimique Nicolas Martin pour sa méthode scientifique.